Ursule Mirouette, première partie, cinquième fichier. Le juge de paix reconduisit le notaire jusqu'à la grille en lui demandant, sans y mettre aucun empressement, « Qu'est-il donc arrivé à Ursule ?»«
Je ne sais pas, » répondit M. Dionis. « Elle était sur les marches à nous écouter, et quand son oncle m'a refusé de prêter la somme nécessaire au jeune portenduaire, qui est en prison pour dette, car il n'a pas eu, comme monsieur du Rouvre, un monsieur bon grand pour le défendre, elle a pâli, chancelé. L'aimerait-elle? Y aurait-il entre eux... »
« À 15 ans, répliqua Bongrand en interrompant Dionis.
« Elle est née en février 1814, elle aura 16 ans dans 4 mois. »«
Elle n'a jamais vu le voisin, » répondit le juge de paix.
« Non, c'est une crise. »
« Une crise de cœur, » répliqua le notaire.
Le notaire était assez enchanté de cette découverte, qui devait empêcher le redoutable mariage in extremis par lequel le docteur pouvait frustrer ses héritiers. Tandis que Bongrand voyait ses châteaux en Espagne démolis. Depuis longtemps, il pensait à marier son fils avec Ursule.
Si la pauvre enfant aimait ce garçon, ce serait un malheur pour elle. Madame de Portenduère est bretonne et en tichet de noblesse, répondit le juge de paix après une pause.
Heureusement, pour l'honneur des Portenduère, répliqua le notaire qui faillit se laisser deviner.
Rendons au brave et honnête juge de paix la justice de dire qu'en venant de la grille au salon, il abandonna, non sans douleur pour son fils, l'espérance qu'il avait caressée de pouvoir un jour nommer Ursule sa fille. Il comptait donner 6 000 livres de rente à son fils le jour où il serait nommé substitut. Et si le docteur eût voulu doter Ursule de 100 000 francs, ces deux jeunes gens devaient être la perte des ménages. Son Eugène était un loyal et charmant garçon. Peut-être avait-il un peu trop vanté cet Eugène, et la défiance du vieux Minoret venait-elle de là?
« Je me rabattrai sur la fille du maire, » pensa Bongrand. « Mais Ursule sans dot vaut mieux que mademoiselle Levrault-Crémière avec son million. Maintenant il faut manœuvrer pour faire épouser à Ursule ce petit portenduaire, si toutefois elle l'aime. »
Après avoir fermé la porte du côté de la bibliothèque et celle du jardin, le docteur avait amené sa pupille à la fenêtre qui donnait sur le bord de l'eau.
« Qu'as-tu, cruel enfant ? » lui dit-il. « Tu es ma vie. Sans ton sourire, que deviendrais-je ? »
« Savinien en prison ? » répondit-elle. Après ces mots, un torrent de larmes sortit de ses yeux et les sanglots vinrent.
« Elle est sauvée, » pensa le vieillard qui lui tâtait le pouls avec une anxiété de père. « Hélas, elle a toute la sensibilité de ma pauvre femme !» se dit-il en allant prendre un stéthoscope qu'il mit sur le cœur d'Ursule en y appliquant son oreille.
« Allons, tout va bien !» se dit-il.
« Je ne savais pas, mon cœur, que tu l'aimasses autant déjà !» reprit-il en la regardant. Mais pense avec moi comme avec toi-même, et raconte-moi tout ce qui s'est passé entre vous deux.
« Je ne l'aime pas, mon parrain, nous ne nous sommes jamais rien dit, » répondit-elle en sanglotant.
« Mais apprendre que ce pauvre jeune homme est en prison, et savoir que vous refusez durement de l'en tirer, vous si bon !»«
Ursule, mon bon petit ange, si tu ne l'aimes pas, pourquoi fais-tu devant le jour de Saint-Savinien un point rouge, comme devant le jour de Saint-Denis? Allons, raconte-moi les moindres événements de cette affaire de cœur. »
Ursule rougit, retint quelques larmes, et il se fit entre elle et son oncle un moment de silence.
« As-tu peur de ton père, de ton ami, de ta mère, de ton médecin, de ton parrain ? Dont le cœur a été depuis quelques jours rendu plus tendre encore qu'il ne l'était.
« Eh bien, cher parrain, reprit-elle, je vais vous ouvrir mon âme. Au mois de mai, Monsieur Savinien est venu voir sa mère. Jusqu'à ce voyage, je n'avais jamais fait la moindre attention à lui. Quand il est parti pour demeurer à Paris, j'étais une enfant, et ne voyais, je vous le jure, aucune différence entre un jeune homme et vous autres, si ce n'est que je vous aimais sans imaginer jamais pouvoir aimer mieux qui que ce soit. Monsieur Savinien est arrivé par la malle, la veille du jour de la fête de sa mère, sans que nous le sussions. À 7 heures du matin, après avoir dit mes prières, en ouvrant la fenêtre pour donner de l'air à ma chambre, je vois les fenêtres de la chambre de Monsieur Savinien ouvertes, et Monsieur Savinien en robe de chambre, occupé à se faire la barbe, et mettant à ses mouvements une grâce. Enfin, je l'ai trouvé gentil. Il a peigné ses moustaches noires, sa virgule sous le menton, et j'ai vu son cou blanc, rond. Faut-il vous dire tout? Je me suis aperçue que ce cou si frais, ce visage et ces beaux cheveux noirs étaient bien différents des vôtres quand je vous regardais vous faisant la barbe. Il m'a monté, je ne sais d'où, comme une vapeur par vagues au cœur, dans le gosier, à la tête, et si violemment que je me suis assise. Je ne pouvais me tenir debout, je tremblais. Mais j'avais tant envie de le revoir que je me suis mise sur la pointe des pieds. Il m'a vue alors, et m'a, pour plaisanter, envoyé du bout des doigts un baiser. Et, reprit-elle, je me suis cachée, aussi honteuse qu'heureuse, sans m'expliquer pourquoi j'avais honte de ce bonheur. Ce mouvement qui m'éblouissait l'âme, en y amenant je ne sais quelle puissance, s'est renouvelé toutes les fois qu'en moi-même je revoyais cette jeune figure. Enfin, je me plaisais à retrouver cette émotion, quelque violente qu'elle fût. En allant à la messe, une force invincible m'a poussée à regarder Monsieur Savinien donnant le bras à sa mère. Sa démarche, ses vêtements, tout jusqu'au bruit de ses bottes sur le pavé me paraissait joli. La moindre chose de lui, sa main si finement gantée, exerçait sur moi comme un charme. Cependant, j'ai eu la force de ne pas penser à lui pendant la messe. À la sortie, je suis restée dans l'église, de manière à laisser partir Madame de Portenduère, la première, et à marcher ainsi après lui. Je ne saurais vous exprimer combien ces petits arrangements m'intéressaient. En rentrant, quand je me suis retournée pour fermer la grille...
Et la Bougival ? Dit le docteur.
Oh, je l'avais laissée aller à la cuisine, dit naïvement Ursule. J'ai donc pu voir naturellement Monsieur Savinien planté sur ses jambes et me contemplant. Oh, parrain, je me suis sentie si fière en croyant remarquer dans ses yeux une sorte de surprise et d'admiration que je ne sais pas ce que j'aurais fait pour lui fournir l'occasion de me regarder. Il m'a semblé que je ne devais plus désormais m'occuper que de lui plaire. Son regard est maintenant la plus douce récompense de mes bonnes actions. Depuis ce moment, je songe à lui sans cesse, et malgré moi... Monsieur Savinien est reparti le soir. Je ne l'ai plus revu. La rue des Bourgeois m'a paru vide, et il a comme emporté mon cœur avec lui, sans le savoir.
« Voilà tout ?» dit le docteur.
« Tout, mon parrain !» dit-elle avec un soupir où le regret de ne pas avoir à en dire davantage était étouffé sous la douleur du moment.
« Ma chère petite, » dit le docteur en asseyant Ursule sur ses genoux, « tu vas attraper tes 16 ans bientôt, et ta vie de femme va commencer. Tu es entre ton enfance bénie qui cesse et les agitations de l'amour qui te feront une existence orageuse, car tu as le système nerveux d'une exquise sensibilité. Ce qui t'arrive, c'est l'amour, ma fille, » dit le vieillard avec une expression de profonde tristesse. « C'est l'amour dans sa sainte naïveté, l'amour comme il doit être, involontaire, rapide, venu comme un voleur qui prend tout. Oui, tout. Et je m'y attendais. J'ai bien observé les femmes. Et c'est que, Si chez la plupart l'amour ne s'empare d'elle qu'après bien des témoignages, des miracles d'affection, si celles-là ne rompent leur silence et ne cèdent que vaincues, il en est d'autres qui, sous l'empire d'une sympathie explicable aujourd'hui par les fluides magnétiques, sont envahies en un instant. Je puis te le dire aujourd'hui. Aussitôt que j'ai vu la charmante femme qui portait ton nom, j'ai senti que je l'aimerais uniquement et fidèlement, sans savoir si nos caractères, si nos personnes se conviendraient. Y en a-t-il en amour une seconde vue? Quelle réponse faire? Après avoir vu tant d'unions célébrées sous les auspices d'un si céleste contrat, plus tard brisées, engendrant des haines presque éternelles, des répulsions absolues. Les sens peuvent, pour ainsi dire, s'appréhender et les idées être en désaccord. Et peut-être certaines personnes vivent-elles plus par les idées que par le corps. Au contraire, souvent les caractères s'accordent et les personnes se déplaisent. Ces deux phénomènes si différents, qui rendraient raison de bien des malheurs, démontrent la sagesse des lois, qui laissent aux parents la haute main sur le mariage de leurs enfants. Car une jeune fille est souvent la dupe de l'une de ces deux hallucinations. Aussi ne te blâmais-je pas. Les sensations que tu éprouves, ce mouvement de ta sensibilité qui se précipite de son centre encore inconnu sur ton cœur et sur ton intelligence, ce bonheur avec lequel tu penses à Savinien, tout est naturel. Mais, mon enfant adoré, comme te l'a dit notre bon abbé Chaperon, la société demande le sacrifice de beaucoup de penchants naturels. Autres sont les destinées de l'homme, autres sont celles de la femme. J'ai pu choisir Ursule Mirouette pour femme et venir à elle en lui disant combien je l'aimais, tandis qu'une jeune fille ment à ses vertus en sollicitant l'amour de celui qu'elle aime. La femme n'a pas, comme nous, la faculté de poursuivre au grand jour l'accomplissement de ses vœux. Aussi la pudeur est-elle chez vous, et surtout chez toi, la barrière infranchissable qui garde les secrets de votre cœur. Ton hésitation à me confier les premières émotions m'a dit assez que tu souffrirais les plus cruelles tortures plutôt que d'avouer à Savinien. « Oh oui !» dit-elle. « Mais, mon enfant, tu dois faire plus. Tu dois réprimer les mouvements de ton cœur. » Les oublier. Pourquoi? Parce que, mon petit ange, tu ne dois aimer que l'homme qui sera ton mari. Et quand même monsieur Savinien de Portenduère t'aimerait, je n'y ai pas encore songé. Écoute-moi. Quand même il t'aimerait, quand sa mère me demanderait ta main pour lui, je ne consentirais à ce mariage qu'après avoir soumis Savinien à un long et mûr examen. Sa conduite vient de le rendre suspect à toutes les familles et de mettre entre les héritières et lui des barrières qui tomberont difficilement. Un sourire d'ange sécha les pleurs d'Ursule qui dit « À quelque chose malheur est bon ». Le docteur fut sans réponse à cette naïveté. « Qu'a-t-il fait, mon parrain ? » reprit-elle. « En 2 ans, mon petit ange, il a fait à Paris pour 120 000 francs de dette. Il a eu la sottise de se laisser coffrer à Sainte-Pélagie. Maladresse qui déconsidère à jamais un jeune homme par le temps qui court. Un dissipateur capable de plonger une pauvre mère dans la douleur et la misère fait, comme ton pauvre père, mourir sa femme de désespoir. » « Croyez-vous qu'il puisse se corriger ? » demanda-t-elle. « Si sa mère paye pour lui, il se sera mis sur la paille. Et je ne sais pas de pire correction pour un noble que d'être sans fortune. » Cette réponse rendit Ursule pensive. Elle essuya ses larmes et dit à son parrain, « Si vous pouvez le sauver, sauvez-le, mon parrain. Ce service vous donnera le droit de le conseiller. Vous lui ferez des remontrances. » « Eh !
dit le docteur en imitant le parler d'Ursule. « Il pourra venir ici. La vieille dame y viendra. Nous les verrons et... »
« Je ne songe en ce moment qu'à lui-même, » répondit Ursule en rougissant.
« Ne pense plus à lui, ma pauvre enfant. C'est une folie, » dit gravement le docteur.
« Jamais Madame de Portenduère, une Kergarouette, n'eût-elle que 300 livres par an pour vivre, ne consentirait au mariage du vicomte Savinien de Portenduère, petit-neveu du feu comte de Portenduère, lieutenant-général des armées navales du roi et fils du vicomte de Portenduère, capitaine de vaisseau. Avec qui? Avec Ursule Mirouette, fille d'un musicien de régiment, sans fortune, et dont le père, hélas, voici le moment de te le dire, était le bâtard d'un organiste de mon beau-père.
Oh, mon parrain, vous avez raison. Nous ne sommes égaux que devant Dieu. Je ne songerai plus à lui que dans mes prières, » dit-elle au milieu des sanglots que cette révélation excita. « Donnez-lui tout ce que vous me destinez. De quoi peut avoir besoin une pauvre fille comme moi ? En prison, lui !»«
Offre à Dieu toutes tes mortifications, et peut-être nous viendra-t-il en aide. »
Le silence régna pendant quelques instants. Quand Ursule, qui n'osait regarder son parrain, leva les yeux sur lui, son cœur fut profondément remué lorsqu'elle vit des larmes roulant sur ses joues flétries. Les pleurs des vieillards sont aussi terribles que ceux des enfants sont naturels.
« Qu'avez-vous, mon Dieu ? » dit-elle en se jetant à ses pieds et lui baisant les mains. « N'êtes-vous pas sûr de moi ? »
« Moi qui voudrais satisfaire à tous tes vœux, je suis obligée de te causer la première grande douleur de ta vie. Je souffre autant que toi. Je n'ai pleuré qu'à la mort de mes enfants et à celle d'Ursule. Tiens, je ferai tout ce que tu voudras !» s'écria-t-il. À travers ses larmes, Ursule jeta sur son parrain un regard qui fut comme un éclair. Elle sourit. « Allons au salon. Et sache te garder le secret à toi-même sur tout ceci, ma petite, » dit le docteur en laissant sa filleule dans son cabinet. Ce père se sentit si faible contre ce divin sourire qu'il allait dire un mot d'espérance et tromper ainsi sa filleule. En ce moment, Madame de Portenduère, seule avec le curé dans sa froide petite salle au rez-de-chaussée, avait fini de confier ses douleurs à ce bon prêtre, son seul ami. Elle tenait à la main des lettres que l'abbé Chaperon venait de lui rendre après les avoir lues et qui avaient mis ses misères au comble. Assise dans sa bergère, d'un côté de la table carrée où se voyaient les restes du dessert, la vieille dame regardait le curé, qui de l'autre côté, ramassé dans son fauteuil, se caressait le menton par ce geste commun aux valets de théâtre, aux mathématiciens, aux prêtres, et qui trahit quelques méditations sur un problème difficile à résoudre. Cette petite salle, éclairée par deux fenêtres sur la rue et garnie de boiseries peintes en gris, était si humble que les panneaux du bas offraient au regard les fendillements géométriques du bois pourri quand il n'est plus maintenu que par la peinture. Le carreau, rouge et frotté par l'unique servante de la vieille dame, exigeait devant chaque siège de petits ronds en sparterie sur l'un desquels l'abbé tenait ses pieds. Les rideaux, de vieux damas vert clair à fleurs vertes, étaient tirés et les persiennes avaient été fermées. Deux bougies éclairaient la table, tout en laissant la chambre dans le clair-obscur. Est-il besoin de dire qu'entre les deux fenêtres, un beau pastel de la tour montrait le fameux amiral de Portenduère, le rival des Suffrains, des Kergarouettes, des Guichans et des Simeuses. Sur la boiserie en face de la cheminée, on apercevait le vicomte de Portenduère et la mère de la vieille dame, une Kergarouette ploégate. Savinien avait donc pour grand-oncle le vice-amiral de Kergarouette, et pour cousin,
le comte de Portenduère, petit-fils de l'amiral, l'un et l'autre fort riches. Le vice-amiral de Kergarouët habitait Paris, et le comte de Portenduère le château de ce nom dans le Dauphiné. Son cousin, le comte, représentait la branche aînée, et Savinien était le seul rejeton du cadet de Portenduère. Le comte, âgé de plus de 40 ans, marié à une femme riche, avait 3 enfants. Sa fortune, accrue de plusieurs héritages, se montait, dit-on, à 60 000 livres de rente. Député de l'Isère, il passait ses hivers à Paris, où il avait racheté l'hôtel de Portenduère avec les indemnités que lui valait la loi Villèle. Le vice-amiral de Kergarouët avait récemment épousé sa nièce, Mademoiselle de Fontaine, uniquement pour lui assurer sa fortune. Les fautes du vicomte devaient donc lui faire perdre 2 puissantes protections. Jeune et joli garçon, si Savinien fut entré dans la marine, avec son nom et appuyé par un amiral, par un député, peut-être à 23 ans eût-il été déjà lieutenant de vaisseau. Mais sa mère, opposée à ce que son fils unique se destinât à l'état militaire, l'avait fait élever à Nemours par un vicaire de l'abbé Chaperon, et s'était flattée de pouvoir conserver jusqu'à sa mort son fils près d'elle. Elle voulait sagement le marier avec une demoiselle d'Aiglemont, riche de 12 000 livres de rente, à la main de laquelle le nom de Portenduère et la ferme des Bordières permettaient de prétendre. Ce plan restreint, mais sage, et qui pouvait relever la famille à la seconde génération, eût été déjoué par les événements. Les d'Aiglemont étaient alors ruinés, et une de leurs filles, l'aînée, Hélène, avait disparu, sans que la famille expliquât ce mystère. L'ennui d'une vie sans air, sans issue et sans action, sans autre aliment que l'amour des fils pour leur mère, fatigua tellement Savinien qu'il rompit ses chaînes, quelque douces qu'elles fussent, et jura de ne jamais vivre en province, en comprenant un peu tard que son avenir n'était pas rue des bourgeois. À 21 ans, il avait donc quitté sa mère pour se faire reconnaître de ses parents et tenter la fortune à Paris. Ce devait être un funeste contraste que celui de la vie de Nemours et de la vie de Paris pour un jeune homme de 21 ans, libre, sans contradicteur, nécessairement affamé de plaisir, et à qui le nom de Portenduère et sa parenté si riche ouvraient les salons. Certain que sa mère gardait les économies de 20 années amassées dans quelques cachettes, Savinien eut bientôt dépensé les 6 000 francs qu'elle lui donna pour voir Paris. Cette somme ne défraya pas ses 6 premiers mois, et il dut alors le double de cette somme à son hôtel, à son tailleur, à son bottier, à son loueur de voitures et de chevaux, à un bijoutier, à tous les marchands qui concourent au luxe des jeunes gens. À peine avait-il réussi à se faire connaître, à peine savait-il parler, se présenter, porter ses gilets et les choisir, commander ses habits et mettre sa cravate, qu'il se trouvait à la tête de 30 000 francs de dette, et n'en était encore qu'à chercher une tournure délicate pour déclarer son amour à la sœur du marquis de Ronquerolles, Madame de Sérisy, femme élégante, mais dont la jeunesse avait brillé sous l'Empire. Comment vous en êtes-vous tirés, vous autres? Dit un jour, à la fin d'un déjeuner, Savinien à quelques élégants avec lesquels il s'était lié, comme se lient aujourd'hui des jeunes gens dont les prétentions à toute chose visent au même but et qui réclament une impossible égalité. Vous n'étiez pas plus riche que moi, vous marchez sans souci, vous vous maintenez, et moi j'ai des dettes.
Nous avons tous commencé par là, lui dirent en riant Rastignac, Lucien de Rubempré, Maxime de Trailles, Émile Blondet, les dandys d'alors.
Si de Marsay s'est trouvé riche au début de sa vie, c'est un hasard, dit l'amphitryon, un parvenu nommé Finot, qui tentait de frayer avec ses jeunes gens. Et s'il n'eût pas été lui-même, ajouta-t-il en le saluant,
sa fortune pouvait le ruiner. « Le mot y est, » dit Maxime de Trailles.
« Et l'idée aussi, » répliqua Rastignac.
« Mon cher, » dit gravement de Marsay à Savinien, « les dettes sont la commandite de l'expérience. Une bonne éducation universitaire, avec maître d'agrément et de désagrément, qui ne vous apprend rien, coûte 60 000 francs. Si l'éducation par le monde coûte le double, elle vous apprend la vie, les affaires, la politique, les hommes et quelquefois les femmes. »
Blondet acheva cette leçon par cette traduction d'un vers de La Fontaine. « Le monde vend très cher ce qu'on pense qu'il donne. »
Au lieu de réfléchir à ce que les plus habiles pilotes de l'archipel parisien lui disaient de sensé, Savinien n'y vit que des plaisanteries.
« Prenez garde, mon cher, » lui dit de Marsay. « Vous avez un beau nom, et si vous n'acquérez pas la fortune qu'exige votre nom, vous pourrez aller finir vos jours sous un habit de maréchal des logis dans un régiment de cavalerie. »
« Nous avons vu tomber de plus illustres têtes, » ajouta-t-il en déclamant ce vers de Corneille et prenant le bras de Savinien.
« Il nous est venu, » reprit-il. Voici bientôt 6 ans, un jeune comte d'Esgrignon, qui n'a pas vécu plus de 2 ans dans le paradis du grand monde. Hélas, il a vécu ce que vivent les fusées. Il s'est élevé jusqu'à la duchesse de Maufrigneuse, et il est retombé dans sa ville natale, où il expie ses fautes entre un vieux père à Catarre et une partie de whist à 2 sous sous l'affiche. Dites votre situation à madame de Sérisy tout naïvement. Sans honte, elle vous sera très utile. Tandis que si vous jouez avec elle la charade du premier amour, elle se posera en madone de Raphaël, jouera aux jeux innocents et vous fera voyager à grands frais dans le pays de Tendre.
Savinien, trop jeune encore, tout au pur honneur du gentilhomme, n'osa pas avouer sa position de fortune à madame de Sérisy. Madame de Portenduère, dans un moment où son fils ne savait où donner de la tête, envoya 20 000 francs, tout ce qu'elle possédait, sur une lettre où Savinien, instruit par ses amis dans la balistique des ruses dirigées par les enfants contre les coffres-forts paternels, parlait de billets à payer et du déshonneur de laisser protester sa signature. Il atteignit, avec ce secours, à la fin de la première année. Pendant la seconde, attaché au char de madame de Sérisy, sérieusement éprise de lui, et qui d'ailleurs le formait, il usa de la dangereuse ressource des usuriers. Un député de ses amis, un ami de son cousin de Portenduère, des Lupeaux, l'adressa, dans un jour de détresse, à Gobseck, à Gigonnet et à Palma, qui, bien et dûment informés de la valeur des biens de sa mère, lui rendirent l'escompte doux et facile. L'usure et le trompeur, secours des renouvellements, lui firent mener une vie heureuse pendant environ 18 mois. Sans oser quitter madame de Sérisy, le pauvre enfant devint amoureux fou de la belle comtesse de Kergarouët, prude comme toutes les jeunes personnes qui attendent la mort d'un vieux mari et qui font l'habile report de leur vertu sur un second mariage. Incapable de comprendre qu'une vertu raisonnée est invincible, Savinien faisait la cour à Émilie de Kergarouët en grande tenue d'homme riche. Il ne manquait ni un bal ni un spectacle où elle devait se trouver.
« Mon petit, tu n'as pas assez de poudre pour faire sauter ce rocher-là !»
lui dit un soir en riant de Marsay. Ce jeune roi de la fashion parisienne eut beau, par commisération, expliquer Émilie de Fontaine à cet enfant, il fallut les sombres clartés du malheur et les ténèbres de la prison pour éclairer Savinien. Une lettre de change, imprudemment souscrite à un bijoutier, d'accord avec les usuriers qui ne voulaient pas avoir l'odieux de l'arrestation, fit écrouer,
pour 117 000 francs, Savinien de Portenduère à Sainte-Pélagie, à l'insu de ses amis. Aussitôt que cette nouvelle fut sue par Rastignac, par de Marsay et par Lucien de Rubempré, tous trois vinrent voir Savinien et lui offrirent chacun un billet de 1 000 francs, en le trouvant dénué de tout. Le valet de chambre, acheté par deux créanciers, avait indiqué l'appartement secret où Savinien logeait, et tout y avait été saisi, moins les habits et le peu de bijoux qu'il portait. Les trois jeunes gens, munis d'un excellent dîner, et tout en buvant le vin de Xérès apporté par de Marsay, s'informèrent de la situation de Savinien, en apparence afin d'organiser son avenir, mais sans doute pour le juger.
« Quand on s'appelle Savinien de Portenduère, s'était écrié Rastignac, quand on a pour cousin un futur pair de France et pour grand-oncle l'amiral Kergarouët, si l'on commet l'énorme faute de se laisser mettre à Sainte-Pélagie, il ne faut pas y rester, mon cher. »
« Pourquoi ne m'avoir rien dit ? » s'écria de Marsay. « Vous aviez à vos ordres ma voiture de voyage, 10 000 francs et des lettres pour l'Allemagne. Nous connaissons Gobseck, Gigonnet et autres crocodiles. Nous les aurions fait capituler. Et d'abord, quel âne vous a mené boire à cette source mortelle ?»
demanda de Marsay.
« Des lupeaux. »
Les trois jeunes gens se regardèrent en se communiquant ainsi la même pensée, un soupçon, mais sans l'exprimer.
« Expliquez-moi vos ressources, montrez-moi votre jeu, » demanda de Marsay.
Lorsque Savinien eut dépeint sa mère et ses bonnets à coque, sa petite maison à trois croisées dans la rue des Bourgeois, sans autre jardin qu'une cour à puits et à hangar pour serrer le bois, qu'il leur eût chiffré la valeur de cette maison, bâtie en grès, crépie en mortier rougeâtre, et prisé la ferme des Bordières, les trois dandys se regardèrent et dirent d'un air profond le mot de l'abbé dans « Les marrons du feu » d'Alfred de Musset, dont les contes d'Espagne venaient de paraître.
« Triste !
Votre mère payera sur une lettre habilement écrite !» dit Rastignac.
« Oui, mais après ? » s'écria de Marsay.
« Si vous n'aviez été que mis dans le fiacre, dit Lucien, le gouvernement du roi vous mettrait dans la diplomatie. Mais Sainte-Pélagie n'est pas l'antichambre d'une ambassade. »
« Vous n'êtes pas assez fort pour la vie de Paris, dit Rastignac.
« Voyons, reprit de Marsay, qui toisa Savinien comme un maquignon estime un cheval. Vous avez de beaux yeux bleus, bien fendus, vous avez un front blanc bien dessiné, des cheveux noirs magnifiques, de petites moustaches qui font bien sur votre joue pâle, et une taille svelte. Vous avez un pied qui annonce de la race, des épaules et une poitrine pas trop commissionnaires et cependant solides. Vous êtes ce qu'on appelle un brun élégant. Votre figure est dans le genre de celle de Louis XIII, peu de couleur, le nez d'une jolie forme. Et vous avez de plus ce qui plaît aux femmes, un je ne sais quoi dont ne se rendent pas compte les hommes eux-mêmes, et qui tient à l'air, à la démarche, au son de voix, au lancer du regard, au geste, à une foule de petites choses que les femmes voient et auxquelles elles attachent un certain sens qui nous échappe. Vous ne vous connaissez pas, mon cher. Avec un peu de tenue, en 6 mois, vous enchanteriez une Anglaise de 100 000 livres, en prenant surtout le titre de vicomte de Portenduère auquel vous avez droit. Ma charmante belle-mère, Lady Dudley, qui n'a pas sa pareille pour embrocher de cœur, vous la découvrirez dans quelques-uns des terrains d'alluvion de la Grande-Bretagne. Mais il faudrait pouvoir et savoir reporter vos dettes à 90 jours par une habile manœuvre de haute banque. Pourquoi ne m'avoir rien dit ? À Bade, les usuriers vous auraient respecté, servi peut-être. Mais après vous avoir mis en prison, ils vous méprisent. L'usurier comme la société, comme le peuple. à genoux devant l'homme assez fort pour se jouer de lui, et sans pitié pour les agneaux. Aux yeux d'un certain monde, sainte Pélagie est une diablesse qui roussit furieusement l'âme des jeunes gens. Voulez-vous mon avis, mon cher enfant? Je vous dirai comme au petit d'Esgrignon. Payez vos dettes, avec mesure, en gardant de quoi vivre pendant 3 ans, et mariez-vous en province, avec la première fille qui aura 30 000 livres de rente. En 3 ans, vous aurez trouvé quelque sage héritière qui voudra se nommer madame de Portenduère. Voilà la sagesse. Buvons donc, je vous porte ce toast. À la fille d'argent. Les jeunes gens ne quittèrent leur ex-ami qu'à l'heure officielle des adieux, et sur le pas de la porte ils se dirent « Il n'est pas fort, il est bien abattu, se relèvera-t-il » Le lendemain, Savinien écrivit à sa mère une confession générale en 22 pages. Après avoir pleuré pendant toute une journée, madame de Portenduère écrivit d'abord à son fils, en lui promettant de le tirer de prison, puis au comte de Portenduère et de Kergarouët. Les lettres que le curé venait de lire et que la pauvre mère tenait à la main, humide de ses larmes, étaient arrivées le matin même et lui avaient brisé le cœur. À madame de Portenduère, Paris, septembre 1829. Madame, vous ne pouvez pas douter de l'intérêt que l'amiral et moi nous prenons à vos peines. Ce que vous mandez à monsieur de Kergarouët m'afflige d'autant plus que ma maison était celle de votre fils. Nous étions fiers de lui. Si Savinien avait eu plus de confiance en l'amiral, nous l'eussions pris avec nous. Il serait déjà placé convenablement. Mais il ne nous a rien dit, le malheureux enfant. L'amiral ne saurait payer 100 000 francs. Il est endetté lui-même, et s'est obéré pour moi qu'il ne savait rien de sa position pécuniaire. Il est d'autant plus désespéré que Savinien nous a, pour le moment, lié les mains en se laissant arrêter. Si mon beau-neveu n'avait pas eu pour moi je ne sais quelle sotte passion qui étouffait la voix du parent par l'orgueil de l'amoureux, nous l'eussions fait voyager en Allemagne pendant que ses affaires se seraient accommodées. Monsieur de Kergarouët aurait pu demander une place pour son petit-neveu dans les bureaux de la marine, mais un emprisonnement pour dette va sans doute paralyser les démarches de l'amiral. Payez les dettes de Savinien. Qu'il serve dans la marine, il fera son chemin en vrai Portenduère. Il a leur feu dans ses beaux yeux noirs, et nous l'aiderons tous. Ne vous désespérez donc pas, madame. Il vous reste des amis au nombre desquels je veux être comprise comme une des plus sincères. Et je vous envoie mes vœux avec les respects de votre très affectionnée servante, Émilie de Kergarouët. À madame de Portenduère, Portenduère, août 1829. Ma chère tante, je suis aussi contrariée qu'affligée des escapades de Savinien. Marié, père de 2 fils et d'une fille, ma fortune, déjà si médiocre relativement à ma position et à mes espérances, ne me permet pas de l'amoindrir d'une somme de 100 000 francs pour payer la rançon d'un Portenduère pris par les Lombards. Vendez votre ferme, payez ses dettes et venez à Portenduère. Vous y trouverez l'accueil que nous vous devons, quand même nos cœurs ne seraient pas entièrement à vous. Vous vivrez heureuse, et nous finirons par marier Savinien, que ma femme trouve charmant. Cette phrase connaît rien, ne vous désolez pas. Elle ne se saura jamais dans notre province où nous connaissons plusieurs filles d'argent très riches et qui seront enchantées de nous appartenir. Ma femme se joint à moi, pour vous dire toute la joie que vous nous ferez, et vous prie d'agréer ses vœux pour la réalisation de ce projet et l'assurance de nos respects affectueux. Luc Savinien, comte de Portenduère. Quelle lettre pour une Kergarouët ! S'écria la vieille bretonne en essuyant ses yeux. « L'amiral ne sait pas que son neveu est en prison, » dit enfin l'abbé Chaperon. « La comtesse a seule lu votre lettre et seule a répondu. Mais il faut prendre un parti, » reprit-il après une pause. « Et voici ce que j'ai l'honneur de vous conseiller. Ne vendez pas votre ferme. Le bail est à fin et voici 24 ans qu'il dure. Dans quelques mois, vous pourrez porter son fermage à 6 000 francs. Et vous faire donner un pot de vin d'une valeur de 2 années. Empruntez à un honnête homme, et non aux gens de la ville qui font le commerce des hypothèques. Votre voisin est un digne homme, un homme de bonne compagnie, qui a vu le beau monde avant la Révolution, et qui, d'athée, est devenu catholique. N'ayez point de répugnance à le venir voir ce soir. Il sera très sensible à votre démarche. « Oubliez un moment que vous êtes Kergarouët. »«
Jamais !»
dit la vieille mère d'un son de voix strident. « Enfin, soyez une Kergarouët aimable. Venez quand il sera seul. Il ne vous prêtera qu'à 3,5, peut-être à 3%, et vous rendra service avec délicatesse. Vous en serez contente. Il ira délivrer lui-même Savinien, car il sera forcé de vendre des rentes. » et vous le ramènera.
Vous parlez donc de ce petit Minoret ?
Ce petit a 83 ans, reprit l'abbé Chaperon en souriant. Ma chère dame, ayez un peu de charité chrétienne, ne le blessez pas. Il peut vous être utile de plus d'une manière.
Mais comment ?
Mais il a un ange auprès de lui, la plus céleste jeune fille.
« Oui, cette petite Ursule. Eh bien, après ?»
Le pauvre curé nous a poursuivre en entendant cette « Eh bien, après ?» dont la sécheresse et l'âpreté tranchaient d'avance la proposition qu'il voulait faire. « Je crois le docteur Minoret puissamment riche.
Tant mieux pour lui.
Vous avez déjà très indirectement causé les malheurs actuels de votre fils en ne lui donnant pas de carrière. Prenez garde à l'avenir, dit sévèrement le curé. Dois-je annoncer votre visite à votre voisin?
Mais pourquoi, sachant que j'ai besoin de lui, ne viendrait-il pas?
Ah, madame, en allant chez lui, vous paierez 3%, et s'il vient chez vous, vous paierez 5. Dit le curé qui trouva cette belle raison afin de décider la vieille dame. « Et si vous étiez forcé de vendre votre ferme par Dionys le notaire, par le greffier Massin, qui vous refuserait des fonds en espérant profiter de votre désastre, vous perdriez la moitié de la valeur des bordières. Je n'ai pas la moindre influence sur des Dionys, des Massins, des Levrault, les gens riches du pays qui convoitent votre ferme, et savent votre fils en prison.
Ils le savent ! Ils le savent !
S'écria-t-elle en levant les bras.
Oh, mon pauvre curé ! Vous avez laissé refroidir votre café ! Tiennette ! Tiennette !
Tiennette, une vieille bretonne à casaquin et à bonnet breton, âgée de 60 ans, entra lestement et prit, pour le faire chauffer, le café du curé.
« Soyez paisible, monsieur le recteur, » dit-elle en voyant que le curé voulait boire. « Je le mettrai dans le bain-marie, il ne deviendra pas mauvais. »
« Eh bien, » reprit le curé de sa voix insinuante, « j'irai prévenir monsieur le docteur de votre visite, et vous viendrez. » La vieille mère ne céda qu'après une heure de discussion, pendant laquelle le curé fut obligé de répéter 10 fois ses arguments. Et encore, l'altière Kergarouët ne fut-elle vaincue que par ces derniers mots. « Savinien irait. »«
Il vaut mieux alors que ce soit moi, » dit-elle.
9 heures sonnaient quand la petite porte ménagée dans la grande se fermait sur le curé, qui sonna vivement à la grille du docteur. L'abbé Chaperon tomba de Tiennette en Bougival, car la vieille nourrice lui dit « Vous venez bien tard, monsieur le curé. Comme l'autre lui avait dit, Pourquoi quittez-vous si tôt madame quand elle a du chagrin ?»
Le curé trouva nombreuse compagnie dans le salon vert et brun du docteur, car Dionis était allé rassurer les héritiers en passant chez Massin pour leur répéter les paroles de leur oncle. « Ursule, dit-il, a, je crois, un amour au cœur qui ne lui donnera que peine et souci. Elle paraît romanesque. L'excessive sensibilité s'appelle ainsi chez les notaires. Et nous la verrons longtemps fille. Ainsi, pas de défiance. Soyez aux petits soins avec elle, et soyez les serviteurs de votre oncle, car il est plus fin que sans Goupil, » ajouta le notaire, sans savoir que Goupil est la corruption du mot latin vulpes, renard. Donc, mesdames Massin et Crémière, leur mari, le maître de poste et Désiré, formaient avec le médecin de Nemours et Bongrand une assemblée inaccoutumée et turbulente chez le docteur. L'abbé Chaperon entendit en entrant les sons du piano. La pauvre Ursule achevait la symphonie en la de Beethoven. Avec la ruse permise à l'innocence, l'enfant, que son parrain avait éclairé et à qui les héritiers déplaisaient, choisit cette musique grandiose et qui doit être étudiée pour être comprise, afin de dégoûter ces femmes de leur envie. Plus la musique est belle, moins les ignorants la goûtent. Aussi, quand la porte s'ouvrit et que l'abbé Chaperon montra sa tête vénérable, « Ah, voilà, monsieur le curé !» s'écrièrent les héritiers heureux de se lever tous et de mettre un terme à leur supplice. L'exclamation trouva un écho à la table de jeu où Bongrand, le médecin de Nemours et le vieillard étaient victimes de l'outrecuidance avec laquelle le percepteur, pour plaire à son grand-oncle, avait proposé de faire le quatrième au whist. Ursule quitta le forte. Le docteur se leva, comme pour saluer le curé, mais bien pour arrêter la partie. Après de grands compliments adressés à leur oncle sur le talent de la filleule, les héritiers tirèrent leur révérence. « Bonsoir, mes amis !» s'écria le docteur quand la grille retentit. « Ah, voilà ce qui coûte si cher !» dit madame Crémière à madame Massin quand elles furent à quelques pas. « Dieu me garde de donner de l'argent pour que ma petite Aline me fasse des charivaris pareils dans la maison !» répondit madame Massin. Elle dit que c'est de Beethoven, et qui passe cependant pour un grand musicien, dit le receveur. Il a de la réputation. Ma foi, ce ne sera pas à Nemours, reprit madame Crémière, et il est bien nommé Beethoven.
Je crois que notre oncle l'a fait exprès, pour que nous n'y revenions plus, dit Massin.
Car il a cligné des yeux en montrant le volume vert à sa petite mijaurée.
« Si c'est avec ce carillon-là qu'il s'amuse, » reprit le maître de poste, « ils font bien de rester entre eux. »
« Il faut que monsieur le juge de paix aime bien à jouer pour entendre ces sonacles, » dit madame Crémière.
« Je ne saurais jamais jouer devant des personnes qui ne comprennent pas la musique, »
dit Ursule en venant s'asseoir auprès de la table de jeu. Les sentiments chez les personnes richement organisées ne peuvent se développer que dans une sphère amie, dit le curé de Nemours, de même que le prêtre ne saurait bénir en présence du mauvais esprit, que le châtaignier meurt dans une terre grasse. Un musicien de génie éprouve une défaite intérieure quand il est entouré d'ignorants. Dans les arts, nous devons recevoir des âmes qui servent de milieu à notre âme, autant de force que nous leur en communiquons. Cet axiome qui régit les affections humaines a dicté les proverbes. Il faut hurler avec les loups. Qui se ressemble s'assemble. Mais la souffrance que vous devez avoir éprouvée n'atteint que les natures tendres et délicates.
Aussi, mes amis, dit le docteur, une chose qui ne ferait que de la peine à une femme. Pourrait-elle tuer ma petite Ursule? Ah, quand je ne serai plus élevée entre cette chère fleur et le monde, cette haie protectrice dont parlent les vers de Catulle, Ut flos, etc.
Ces dames ont été cependant bien flatteuses pour vous, Ursule, dit le juge de paix en souriant.
Grossièrement flatteuses, fit observer le médecin de Nemours.
J'ai toujours remarqué de la grossièreté dans les flatteries de commande, répondit le vieux Minoret.
Et pourquoi?
Une pensée vraie porte avec elle sa finesse, dit l'abbé.
Vous avez dîné chez madame de Portenduère? Dit alors Ursule, qui interrogea l'abbé Chaperon en lui jetant un regard plein d'inquiète curiosité.
Oui, la pauvre dame est bien affligée, et il ne serait pas impossible qu'elle vînt vous voir ce soir, monsieur Minoret.
Si elle est dans le chagrin et qu'elle ait besoin de moi, j'irai chez elle, s'écria le docteur. Achevons le dernier rubert.
Par-dessous la table, Ursule pressa la main du vieillard.
Son fils, dit le juge de paix, était un peu trop simple pour habiter Paris sans un mentor. Quand j'ai su qu'on prenait ici, près du notaire, des renseignements sur la ferme de la vieille dame, j'ai deviné qu'il escomptait la mort de sa mère.
L'en croyez-vous capable? Dit Ursule en lançant un regard terrible à monsieur Bongrand, qui se dit en lui-même.
Hélas, oui, elle l'aime.
Oui et non, dit le médecin de Nemours. Savinien a du bon, et la raison en est qu'il est en prison. Les fripons n'y vont jamais.
Mes amis, s'écria le vieux Minoret, en voici bien assez pour ce soir. Il ne faut pas laisser pleurer une pauvre mère une minute de plus quand on peut sécher ses larmes.
Les quatre amis se levèrent et sortirent. Ursule les accompagna jusqu'à la grille, regarda son parrain et le curé frappant à la porte en face. Et quand Tiennette les eut introduits, elle s'assit sur une des bornes extérieures de la maison, ayant la Bougival près d'elle.
« Madame la vicomtesse, »
dit le curé qui entra le premier dans la petite salle. « Monsieur le docteur Minoret n'a point voulu que vous prissiez la peine de venir chez lui. »«
Je suis trop de l'ancien temps, madame, » reprit le docteur, « pour ne pas savoir tout ce qu'un homme doit à une personne de votre qualité. Et je suis trop heureux, d'après ce que m'a dit monsieur le curé, de pouvoir vous servir en quelque chose. »
Madame de Portenduère, à qui la démarche convenue pesait tant que depuis le départ de l'abbé Chaperon, elle voulait s'adresser au notaire de Nemours, fut si surprise de la délicatesse de Minoret qu'elle se leva pour répondre à son salut et lui montra un fauteuil.
« Asseyez-vous, monsieur, » dit-elle d'un air royal. « Notre cher curé vous aura dit que le vicomte est en prison pour quelques dettes de jeune homme, 100 000 livres. Si vous pouviez les lui prêter, je vous donnerais une garantie sur ma ferme des Bordières. »
« Nous en parlerons, madame la vicomtesse, quand je vous aurai ramené monsieur votre fils, si vous me permettez d'être votre intendant en cette circonstance. »
« Très bien, monsieur le docteur, » répondit la vieille dame en inclinant la tête et regardant le curé d'un air qui voulait dire
« Vous avez raison, il est homme de bonne compagnie. »
« Mon ami le docteur, » dit alors le curé, « vous le voyez, madame, est plein de dévouement pour votre maison. »
« Nous vous en aurons de la reconnaissance, monsieur. » dit madame de Portenduère en faisant visiblement un effort.
Car à votre âge, s'aventurer dans Paris à la piste des méfaits d'un étourdi...
Madame, en 65,
J'eus l'honneur de voir l'illustre amiral de Portenduère chez cet excellent monsieur de Malesherbes et chez monsieur le comte de Buffon, qui désirait le questionner sur plusieurs faits curieux de ses voyages. Il n'est pas impossible que feu monsieur de Portenduère, votre mari, s'y soit trouvé. La marine française était alors glorieuse, elle tenait tête à l'Angleterre, et le capitaine apportait dans cette partie sa quote-part de courage. Avec quelle impatience, en 83 et 4, attendait-on des nouvelles du camp de Saint-Roch? J'ai failli partir comme médecin des armées du roi. Votre grand-oncle, qui vit encore, l'amiral Kergarouët, a soutenu dans ce temps-là son fameux combat, car il était sur la belle poule. Ah, s'il savait son petit-neveu en prison! Monsieur le vicomte n'y sera plus dans 2 jours, dit le vieux Minoret en se levant. Il tendit la main pour prendre celle de la vieille dame, qui se la laissa prendre. Il y déposa un baiser respectueux, la salua profondément et sortit. Mais il rentra pour dire au curé « Voulez-vous, mon cher abbé, m'arrêter une place à la diligence pour demain matin ?» Le curé resta pendant une demi-heure environ à chanter les louanges du docteur Minoret, qui avait voulu faire et avait fait la conquête de la vieille dame. « Il est étonnant pour son âge, » dit-elle. « Il parle d'aller à Paris et de faire les affaires de mon fils comme s'il n'avait que 25 ans. Il a vu la bonne compagnie. »« La meilleure, madame. Et aujourd'hui, plus d'un fils de pair de France, pauvre, serait bien heureux d'épouser sa pupille avec 1 million. Ah, si cette idée passait par le cœur de Savinien, les temps sont si changés que ce n'est pas de votre côté que seraient les plus grandes difficultés après la conduite de votre fils. » L'étonnement profond où cette dernière phrase jeta la vieille dame permit au curé de l'achever. « Vous avez perdu le sens, mon cher abbé Chaperon. » « Vous y penserez, madame, et Dieu veuille que votre fils se conduise désormais de manière à conquérir l'estime de ce vieillard. » « Si ce n'était pas vous, monsieur le curé, » dit madame de Portenduère, « si c'était un autre qui me parlât ainsi, vous ne le verriez plus, » dit en souriant l'abbé Chaperon. « Espérons que votre cher fils vous apprendra ce qui se passe à Paris en fait d'alliance. Vous songerez au bonheur de Savinien, et après avoir déjà compromis son avenir, ne l'empêchez pas de se faire une position. » « Et c'est vous qui me dites cela ?»« Si je ne le vous disais point, qui donc vous le dirait ?» s'écria le prêtre en se levant et faisant une prompte retraite. Le curé vit Ursule et son parrain tournant sur eux-mêmes dans la cour. Le faible docteur avait été tant tourmenté par sa filleule qu'il venait de céder. Elle voulait aller à Paris et lui donner 1000 prétextes. Il appela le curé, qui vint, et le pria de retenir tout le coupé pour lui, le soir même, si le bureau de la diligence était encore ouvert. Le lendemain, à 6h30 du soir, le vieillard et la jeune fille arrivèrent à Paris, où, dans la soirée même, le docteur alla consulter son notaire. Les événements politiques étaient menaçants. Le juge de paix de Nemours avait dit plusieurs fois la veille au docteur, pendant sa conversation, qu'il fallait être fou pour conserver 1 sou de rente dans les fonds tant que la querelle élevée entre la presse et la cour ne serait pas vidée. Le notaire de Minoret approuva le conseil indirectement donné par le juge de paix. Le docteur profita donc de son voyage pour réaliser ses actions industrielles et ses rentes, qui toutes se trouvaient en hausse, et déposer ses capitaux à la banque. Le notaire engagea son vieux client à vendre aussi les fonds laissés par monsieur de Jordy à Ursule et qu'il avait fait valoir en bon père de famille. Il promit de mettre en campagne un agent d'affaires excessivement rusé pour traiter avec les créanciers de Savinien. Mais il fallait, pour réussir, que le jeune homme eut le courage de rester quelques jours en prison. « La précipitation dans ces sortes d'affaires coûte au moins 15%, dit le notaire au docteur. « Et d'abord, vous n'aurez pas vos fonds avant 7 ou 8 jours. » Quand Ursule apprit que Savinien serait encore au moins une semaine en prison, elle pria son tuteur de la laisser l'y accompagner une seule fois. Le vieux Minoret refusa. L'oncle et la nièce étaient logés dans un hôtel de la rue Croix des Petits Champs, où le docteur avait pris tout un appartement convenable. Et connaissant la religion de sa pupille, il lui fit promettre de n'en point sortir quand il serait dehors pour ses affaires. Le bonhomme promenait Ursule dans Paris, lui faisait voir les passages, les boutiques, les boulevards, mais rien ne l'amusait ni ne l'intéressait. « Mais que veux-tu ? » lui disait le vieillard. « Voir Sainte-Pélagie, » répondait-elle avec obstination. Minoret prit alors un fiacre et l'amena jusqu'à la rue de la Clef, où la voiture stationna devant l'ignoble façade de cet ancien couvent transformé en prison. La vue de ces hautes murailles grisâtres, dont toutes les fenêtres sont grillées, celle de ce guichet où l'on ne peut entrer qu'en se baissant, horrible façon, cette masse sombre dans un quartier plein de misère et où elle se dresse entourée de rues désertes comme une misère suprême, cet ensemble de choses tristes saisit Ursule et lui fit verser quelques larmes. « Comment, dit-elle, emprisonne-t-on des jeunes gens pour de l'argent? Comment une dette donne-t-elle à un usurier un pouvoir que le roi lui-même n'a pas? Il est donc là, s'écria-t-elle. Et où, mon parrain? Ajouta-t-elle en regardant de fenêtre en fenêtre. Ursule, dit le vieillard. « Tu me fais faire des folies. Ce n'est pas l'oublier, cela. »« Mais, reprit-elle, s'il faut renoncer à lui, dois-je aussi ne lui porter aucun intérêt? Je puis l'aimer et ne me marier à personne. »« Ah ! » s'écria le bonhomme, « il y a tant de raisons dans ta déraison que je me repens de t'avoir amenée. »